soir. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, le peuple attend toujours. C'est l'intitulé du message des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Dans ce message publié lundi 1er mars à Kinshasa, les évêques se félicitent notamment de la fin de la coalition FCC-CACH et de la mise en place des nouveaux animateurs des institutions de la République. Cependant, ils souhaitent que le tout prochain gouvernement soit efficace afin de prendre en compte les cris de la population qui croupit dans la misère. Ils exhortent le chef de l'État de veiller à ce que les membres de ce gouvernement ne soient pas des personnes connues pour s'être distinguées dans les zones plus valeurs. La CENCO attire son attention sur la nécessité de tout mettre en œuvre dès maintenant pour que les élections soient organisées effectivement en 2023. Dans ce message, les évêques ont aussi dénoncé la détérioration de la situation des droits humains en RDC et recommande de régulariser la situation des enseignants afin de consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement de base. Quelle lecture faire du message de la CENCO? C'est le thème de Dialogue Congolais de ce mercredi 3 mars 2021. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Abbé Dolassien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Abbé Dolassien Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Jean-Claude Tshilumbai, député provincial et cadre du parti UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Professeur Tshilumbai, bonsoir. Professeur Tshilumbai, est-ce que vous êtes en ligne? Bonsoir. Apparemment, nous avons perdu le professeur Tshilumbai. La réalisation va essayer de le rappeler. Maître Ferdinand Kambéré, vous êtes avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Madame Telly.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions, vous auditeurs des radios Okapi. C'est le cas de Roger Kivusa. Je félicite les évêques congolais qui prouvent leur indépendance d'esprit dans leur position face à la politique du pays. Certains les traitent d'opposants, d'autres des membres de l'église au milieu du village. Oui, il faut un gouvernement, pas seulement avec des nouveaux visages, mais aussi des compétents et patriotes. Les élections de 2023 doivent être préparées dès maintenant. Polycarpe Vita, les évêques doivent s'occuper d'abord de la vie chrétienne de leurs fidèles. Je me demande pourquoi ils sont tant intéressés par la politique. Académie dans la province du Tanganyika, vous nous suivez sur la 105.fm. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Déchirez votre cœur et non vos vêtements, le peuple attend toujours. Tel est l'intitulé du message des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, publié lundi à Kinshasa. Dans ce message, les princes de l'Église se félicitent notamment de la fin de la coalition et de la mise en place des nouveaux animateurs des institutions de la République. La CENCO souhaite que le tout prochain gouvernement soit efficace afin de prendre en compte les cris de la population qui croupit dans la misère. Les évêques demandent aussi au gouvernement d'inscrire parmi les priorités les réformes électorales, notamment pour consolider la gouvernance électorale et la démocratie. Les détails de ce message avec Dona Madimba.
Parmi les recommandations contenues dans le récent message de l'Église catholique, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, invite le président Félix Tshisekedi à tenir compte du profil éthique des membres du prochain gouvernement et des gestionnaires des entreprises publiques, de garantir la moralité dans le respect de la Constitution et des lois de la République et de veiller à la formation d'un gouvernement efficace. La CENCO estime que seuls les hommes et les femmes qui ont fait preuve d'une bonne éthique dans leur passé et qui ont une expérience dans le domaine requis, soucieux du bien-être de la population, méritent d'être cooptés pour gérer les institutions de l'État et les entreprises publiques. Le peuple sera frustré, argumentent les évêques, de voir revenir au pouvoir ceux qui ont participé au pillage, à l'insécurité et à la violation des droits humains et ne font aucun signe de repentance et de conversion. l'adhésion massive à l'union sacrée de la nation ne doit pas être motivée seulement par le positionnement politique. Il ne suffit pas de changer simplement de camp politique. Faut-il encore rompre avec les antivaleurs et s'engager à travailler? Nous sommes convaincus que le bien-être du peuple congolais passera nécessairement par la consolidation de la démocratie. Ainsi, les réformes électorales et celles de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI en vue d'améliorer la gouvernance électorale devraient figurer parmi les priorités du prochain gouvernement, détaille la CENCO. Sur le plan économique, tout en reconnaissant les efforts faits par les gouvernants pour stabiliser le franc congolais, la CENCO est préoccupée par le fait que la situation de la population congolaise ne s'améliore pas du tout au quotidien et à l'Église catholique de poursuivre. Cette situation justifiée aujourd'hui en partie par la crise de la Covid est un défi majeur pour le gouvernement attendu à qui nous proposons comme antidote la rigueur dans les dépenses publiques, l'équilibre entre les dépenses relatives au fonctionnement des institutions et celles destinées au programme du développement du pays.
Merci Donna Madimba pour tous ces détails. Abbé Donatien Cholet, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, cardinal, archevêque et évêque, membre de la conférence épiscopale du Congo, réunie en comité permanent à Kinshasa du 22 au 25 février 2021, se sont penchés, entre autres, sur la situation socio-politique, sécuritaire et humanitaire de la RDC. Plusieurs constats ont été faits, notamment sur la situation sociale et politique du pays. Et concernant cet aspect, vous, évêque, vous dites être satisfait de la fin de la coalition dont vous avez dénoncé à maintes reprises l'inefficacité, ce qui a donné lieu à l'avènement de l'Union sacrée de la nation et au changement des animateurs des grandes institutions. Cependant, ce changement, selon vous, ont été opérés dans une atmosphère de tension et de manière à se poser des questions sur la moralité de ces actes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je commencerai par dire que le titre même montre le ton du message qui est pastoral, un appel à la conversion. D'ailleurs, le titre, c'est un extrait qui est utilisé pour introduire le carême temps de conversion. Alors, pour revenir à votre question, les évêques ont constaté les changements. Ils ont salué justement la fin de la coalition et vous savez combien ils ont décrié cette coalition parce que ça ne servait pas la population. Mais ils ont quand même relevé le fait que ce changement était opéré dans une atmosphère de tension qui peut mettre sans doute. Mais aussi de manière à se poser la question sur la moralité des actes. Vous savez que beaucoup viennent se confesser à l'église. Vous avez appris qu'il y a eu des enveloppes qui ont circulé. Bon, là, évidemment, c'est avec réserve parce qu'on a fait, des enquêtes, c'est pour ça, les évêques ont dit, de manière à se poser des questions.
Abbé Donatien Cholet, selon la CENCO, l'adhésion massive à l'union sacrée de la nation ne doit pas être motivée seulement par le positionnement politique après analyse de la situation politique du pays. Vous estimez, vous pensez que toutes ces personnes qui ont adhéré à l'union sacrée ne l'ont pas fait par conviction? C'est juste pour avoir des postes politiques.
On l'a pas affirmé comme tel, mais on craint qu'il y ait de cela aussi. Voilà pourquoi les évêques en pasteur, en prophète, attirent l'attention sur ce qui devrait être l'essentiel, non le changement de vêtements, c'est-à-dire des camps politiques, mais plutôt le changement de cœur, c'est-à-dire rompre avec les anti-valeurs. Donc c'est quand même, ça fait poser la question. Tous ceux qui ont traversé, est-ce qu'ils se sont rendus compte que ils faisaient mal et maintenant ils vont bien faire les choses ou simplement pour le positionnement politique. Donc les évêques ont voulu simplement attirer l'attention, prévenir, mais n'ont pas ici fait un jugement de valeur.
Vous évoquez aussi la réforme électorale et celle des lois portant organisation et fonctionnement de la CENI en vue d'améliorer la gouvernance électorale qui devrait figurer parmi les priorités du prochain gouvernement. C'est un rappel que vous faites au président de la République. On sait que les réformes électorales figurent parmi ses priorités. C'est juste un rappel.
Exactement, exactement. Là, vous avez bien vu, évidemment, dans son discours clôturant, concluant les consultations, il est revenu, il a relevé ça comme demande de la majorité des populations, je cite, pour organiser les élections crédibles dans le délai constitutionnel, c'est le président qui a écrit, vous avez souligné l'urgence, c'est le président qui a écrit, de réaliser le recensement de la population dans le délai raisonnable, de réformer la loi électorale et la CENI avant la désignation de ses membres et de constituer des provisions budgétaires annuelles pour le financement des élections. Ici, il s'agit effectivement d'un rappel. Maintenant aussi, l'expérience. Le fait que l'ancien pouvoir, si vous me permettez de parler en ces termes, s'était pris en retard par rapport au financement des élections, par rapport aux élections, nous a amené à un glissement dont nous récoltons aujourd'hui les conséquences. Donc, c'est la sagesse que de conseiller d'attirer l'attention des personnes et des structures concernées pour qu'ils ne soient pas distrait. Donc, ce que le président a relevé comme urgence, il ne faut pas attendre pour le mettre en pratique. C'est simplement ça.
Est-ce que le président avait besoin d'être rappelé, puisque c'est parmi ses priorités, à Bédonacien Cholet? Qu'est-ce qui se cache derrière ce rappel? Vous pensez que le président Félix Tshisekedi, avec son Union sacrée de la nation, préparerait un glissement?
Les évêques ne l'ont pas dit. C'est-à-dire, on peut se retrouver devant une situation de fait qu'au moment où on doit commencer de s'investir là-dessus, de trouver le financement, de réaliser le recensement dans tous les préalables, on ne le fait pas et la réalité va vous rattraper. Donc, les évêques ont été prévenants.
Mais qui vous dit que le gouvernement ne cherche pas le financement?
Non, mais alors ça ne devrait vraiment pas pour... Si c'est ça, quoi que toutes les personnes interpellées devraient simplement dire à la CENCO, « Oh, merci de nous rappeler, mais nous sommes dans les bons. » C'est tout. Ça ne devrait pas être une polémique.
Votre message, Bédonacien Cholet, message de la CENCO, pas le vôtre, a été qualifié, je vais reprendre la phrase utilisée sur le site, la page Facebook de la présidence, un message digne d'un activisme insurrectionnel, même si le porte-parole du président de la République a dit que ce message ne venait pas du président lui-même.
Oui, déjà hier, quand je répondais à certains journalistes, j'avais parié que je ne vois pas le président de la République s'engager dans un tel message. Donc, pour moi, c'était un zélé, et c'est ce qui se confirme. Et là, c'est vraiment malheureux, parce que ce sont les mêmes personnes qui ont applaudi la CENCO, que la CENCO a accompagné pour réclamer la mise en pratique des valeurs dans le respect de la Constitution, les mêmes personnes qui commencent à nous accuser d'activistes. Donc finalement, ils commencent à faire la même chose que ce qu'on a combattu. Mais pourquoi? On a lutté pourquoi? C'est pour un état des droits et le président de la République est dans cette direction-là. Je vous ai cité ce qu'il a dit. Donc ce sont des élus, les gens qui croient à accompagner le chef de l'État alors qu'ils travaillent contre lui. Et ça, c'est dangereux.
Mais il y a certains Congolais aussi qui pensent que vous vous ingérez trop dans la politique, vous, de la CENCO.
Mais il y a de quoi? Je crois que la doctrine sociale de l'Église est claire. L'Église ne doit pas se taire là où le peuple souffre. Et le problème de ce pays, c'est la gouvernance. Alors, tant qu'il n'y aura pas une bonne gouvernance, les évêques ont déjà relevé le fait que les différents gouvernements qui se sont succédés, les différentes gouvernances qui se sont succédées, n'ont pas mis le peuple congolais au centre de leurs préoccupations. Voilà pourquoi les évêques se battent, c'est leur pierre à la construction, la consolidation de la démocratie pour garantir le bien-être du peuple congolais.
Vous êtes préoccupé aussi par le fait que la situation de la population congolaise ne s'améliore pas du tout au quotidien.
Oui, et les évêques ont commencé par reconnaître que cette situation est justifiée en partie par la COVID. Les évêques ont reconnu les efforts faits par le gouvernement pour stabiliser le franc congolais. Donc, mais les évêques constatent que le résultat n'est pas encore atteint. Et voilà pourquoi ils donnent quelques conseils. Donc la lettre est vraiment pour accompagner les institutions du pays dont le président de la République, comme ils se sont engagés à le faire dès le début.
La détérioration de la situation des droits humains en RDC figure aussi dans le message de la CENCO. Est-ce que, à Bédonacien Cholet, il y a des cas précis de violations de droits humains que vous avez constatés depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de la RDC?
Bon, les évêques ont commencé par rappeler que dans leur message antérieur, ils ont salué les avancées en matière de respect des droits humains, mais notent, ils déplorent, ils condamnent, ils déplorent une régression dans les domaines, et ils déplorent les condamnations des répressions d'activistes des droits humains, les attaques menées contre les civils par les droits civils, l'entrave à la liberté d'expression. Et je donne juste un exemple dans ce sens-là, le tout dernier que nous avons vécu nous-mêmes. Vous savez qu'hier, le cardinal a célébré une messe à 18h en mémoire de l'ambassadeur assassiné de l'Italie et il a invité le chef de l'État qui a bien répondu à cette invitation. Mais un des assistants de la présidente de son équipe pour parler large a interdit au caméraman de la radio-télévision élite dans la RTC de filmer la messe parce que pour lui, c'est la RTNC devait filmer la messe, censurer et donner à la RTC ce qu'il voulait donner. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment entamer aller contre la liberté de presse. En plus, c'était dans une cathédrale, en plus, il s'agissait d'une messe. Et ça, c'est quand même une entrave grave qui nous ramène au temps de la pensée unique sur la dictature de Mobutu. Donc, c'est juste un exemple. Donc, comme j'ai dit, il s'agit, le président, sûrement, il sera indigné. Donc, il ne s'agit pas du président qui fait de l'état des droits à son cheval de bataille, mais il y a quelques zélés autour de lui. Je le répète, je crois servir le président, mais il travaille contre lui, contre sa vision.
Merci, on vous garde encore dans cette émission. La réalisation nous signale que le professeur Jean-Claude Tshilumbayi est en ligne. Professeur, bonsoir.
Bonsoir madame, je salue monsieur Abin Cholet.
Vous êtes député provincial et cadre du parti politique UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous avez sûrement lu le message de la CENCO intitulé « Déchirez votre cœur et non vos vêtements », un message dans lequel les évêques se félicitent notamment de la fin de la coalition FCCK, de la mise en place des nouveaux animateurs des institutions de la République. Cependant, il y a plusieurs choses, qu'il faudrait améliorer, notamment le social de la population, la situation sécuritaire, la détérioration de la situation des droits humains en RDC. Comment vous analysez ce message?
Bon, d'abord, il faut noter que lorsque les évêques parlent, non seulement au nom de l'Église, mais comme M. l'abbé venait de le dire, en tant qu'émission prophétique de l'Église, lorsque l'Église intervient sur des questions sociétales, moi je ne tiens pas forcément à inscrire ça dans une démarche militantiste, mais bien c'est le combat de l'Église lorsque ses valeurs sont attaquées, de se dresser contre l'attaque de ses valeurs, lesquelles valeurs sont notamment l'éthique, les droits de l'homme, les libertés, la démocratie, c'est bien des valeurs de l'Église. Ce qu'il faut noter plutôt ici, c'est de voir comment les ripostes à ces valeurs sont organisées par l'Église et dans les messages qu'elle donne, qui sont des messages par ailleurs attendus de notre population parce qu'elle doit participer à consolider notre vivre collectif. Ici, en particulier, les recommandations que l'Église fait à propos du profil éthique et de l'expérience des animateurs du futur gouvernement ne sont pas à rejeter, à mon avis, bien que les pères évêques sont des intellectuels aguerris qui savent que la formation du gouvernement dépend de la configuration de notre régime constitutionnellement établi qui voudrait qu'elle soit l'émanation des équilibres parlementaires dans lesquels le chef de l'État devrait puiser et que parce qu'en élisant les députés, notre peuple n'a pas scruté leur moralité et que c'est ce peuple qui nous les a envoyés et que les ministres, ce gouvernement devant venir de ces mêmes députés pour mériter l'investiture du Parlement, il est difficile de pouvoir faire de cela une affaire du président de la République qui, lui, le Premier ministre par ailleurs, devront dépendre au fait que ce gouvernement soit réellement l'émanation du Parlement pour qu'il mérite sa confiance. Il y a des observations faites sur la question des réformes électorales. Bien évidemment, je félicite la sincérité de M. l'abbé Cholet lorsqu'il regrette les entraves au processus que nous avons vécu dans le passé, notamment avec les implications de l'Église, lorsqu'ils ont participé, ils ont mis la charrée avant le bœuf. Lorsque nous, à l'UDPS, nous insistions sur le fait que l'on ne devrait pas procédé à la désignation des animateurs de la CENI alors qu'il y avait un consensus global sur le fait qu'il fallait commencer par réformer la loi électorale et la CENI elle-même avant de désigner des animateurs. À ce jour, nous comprenons que nous disons la même chose et ça a été de l'avis du chef de l'État. C'est bien aussi clair de féliciter les pères évêques lorsqu'ils avouent, ils reconnaissent que les difficultés qui n'ont pas dépendu de la léthargie du gouvernement en tant que tel ou du président de la République, mais bien des événements considérés, des événements que nous n'avions pas prévus, des événements imprévus comme la pandémie de Covid qui nous a obligés de fermer nos frontières pendant 6 mois, qui a retardé beaucoup de réformes et empêché au gouvernement, bien qu'étant un gouvernement conflictuel, mais aux orientations du chef de l'État de se réaliser. Les questions autres comme la corruption que M. Labbé décrit, et là était le chemin de bataille du président de la République lorsque il a martelé sur cette question. Des procès ont été ici organisés contre des personnes impliquées dans les détournements des deniers publics et des corruptions, bien que par moments, l'Église a semblé faire un pas de recul lorsque elle a voulu émettre des points de vue sur les décisions judiciaires concernant les procès dits de 100 jours, lorsque les juges ont reconnu la culpabilité de certains de nos compatriotes et les ont condamnés. Cela implique aussi la dernière visite. M. Labbé, il est dans la population, il connaît les réactions de notre population lorsqu'en cette période, des soupçons très graves pèsent sur un compatriote en matière de détournement des deniers publics. Et que l'IGF a enquête, y compris sur ce compatriote, lorsque les pères évêques se sont rendus faire l'apologie des réalisations, bien que les appelant sociales de réalisation des normes qui ne s'est pas justifié concrètement, où est-ce qu'il a tiré de gros moyens pour faire ses réalisations alors qu'il a été à la gestion aux commandes de l'État? Tout ça, c'est des questions qui devraient être vues à la prochaine. Mais s'il faut revenir maintenant sur des rappels importants que la CENCO a donné ici, moi je vois la question des droits de l'homme. C'est bien aussi qu'il convient féliciter les pères évêques lorsqu'ils reconnaissent des progrès énormes, bien que l'exemple que M. Labbé donne par exemple de la RTC et de la RTC est à inscrire dans l'organisation professionnelle des médias qui ne sont pas de la compétence du président de la République, et que le protocole d'État, lorsque le chef de l'État participe à des manifestations, quel que soit leur caractère, des manifestations auxquelles le chef de l'État participe deviennent des manifestations à caractère officiel qui doivent répondre à certaines exigences du protocole d'État que nous ne connaissons pas, moi et lui, malheureusement, qui sont à verser peut-être dans le chef de ceux qui ont organisé cette manifestation.
Vous êtes d'accord avec l'abbé Donatien Chollet que le gouvernement, le chef de l'État, fait des efforts de ce côté-là, mais il faut dire quand même que la situation des droits de l'homme a quand même régressé. Professeur Tulumbayi, il y a eu le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui l'a dit.
Non, moi j'ai loué la sincérité de M. Labbé Chollet. Sur la question précise des droits de l'homme, il n'y a jusqu'ici aucune étude sérieuse qui peut démontrer que la question des droits de l'homme a reculé sous le mandat de Félix Tshisekedi par rapport à la période d'avant. Et à ce jour, nous le voyons, moi je suis un avocat, je fréquente des cours de tribunaux, je vois comment les choses évoluent parce que c'est un baromètre important du respect des droits de l'homme lorsque nous fréquentons les parquets, nous fréquentons les cachots de l'ANER et d'autres services spécialisés qui étaient des services de torsion à une époque donnée, des choses ont radicalement évolué, favorablement évolué, mais moi je ne dis pas qu'il ne faut pas que les évêques en parlent, ils doivent continuer de vigiler, moi c'est cet avis qu'ils doivent continuer de rappeler s'il y a des dérapages, et ça permet aussi au chef de l'État, comme lui-même le dénonce, qui n'est pas de cette intention, mais lorsqu'il y aurait de zélés dans des services, qu'il s'agit des services d'intelligence, c'est-à-dire des services de sécurité ou d'autres administrations publiques, lorsqu'il s'agira de zélés qui, avec leur propre initiative, se permettraient par exemple d'entraver la vision qui est celle du chef de l'État, qui l'a dictée à tous ses administrés, à tous les administrés, à tout le monde, ça relève d'une autre observation qu'ils ont le droit de faire. Mais ici, ce qui convient d'être noté, c'est qu'à jour, à ce jour, la question d'adhésion à l'Union sacrée, c'est une invitation du chef de l'État, mais le réalisme voudrait que nous et la CENCO, que nous sachions que le président de la République n'a pas réinventé la roue ici, il n'a pas fait autrement que ce qui est prévu par la Constitution, parce que la majorité qui va devoir gouverner le pays en cette période, bien qu'il y ait divorce avec le FCC, c'est cette majorité de députés que notre peuple dont notre peuple a doté le pays à la dernière élection. On ne va donc pas la changer de sitôt. Ce qu'il faut désormais, c'est que l'Église que de préparer seulement ces élections par les appels à leur organisation dans les délais, le rôle civique de l'Église devait être aussi celui de commencer à préparer les électeurs aujourd'hui pour que le vote à venir soit le plus objectif possible. Moi, je crois que c'est ça l'essentiel.
Maître Ferdinand Cambéré, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC, en sigle. Maître Cambéré, quelle lecture vous faites du message de la SENCO?
Merci Kelly pour nous associer à ce débat ce soir. Je profite pour saluer la présence de M. Labbé Chollet ainsi que du professeur Chirumbay à ce débat. Je crois que notre appréciation du message des évêques, pour moi, ça a été quand même un appel à l'alerte. Parce que l'autre, vous le disiez, en réalité, les évêques n'ont pris position ni pour les FCC ni pour les CACH. Parce que l'évêque a salué les changements qu'il y a eu, mais a décrié la manière dont ce changement est arrivé. Ils ont donc revêti des gants des velours pour essayer de dire effectivement ce qui s'est passé, pour décrier ce qui s'est passé, parce que lorsqu'ils disent effectivement qu'ils se posent des questions sur la moralité de comment cette majorité a changé, mais bon, on sait tout le monde que c'était des violations en violation de la Constitution. Mais et comme Église, l'Église au milieu du village, qui du côté du FCC, du côté des CACH, ne se range pas. Mais rappelle qu'il y a quand même des échéances à faire, parce que tout ça en réalité, lorsque nous parlons de la démocratie, la finalité devrait être le peuple, devrait être dans les bénéfices du bien-être du peuple. Mais lorsque nous donnons l'impression, lorsque nous avons le pouvoir, qu'on a tous les temps et que donc on ne peut pas s'occuper de la population, je crois que tout le monde a salué l'intervention des évêques, parce que les évêques, en tant que société civile, certes, ils font l'alerte, ils font le rôle du contre-pouvoir sans vocation de conquérir au pouvoir, mais ça c'est leur rôle. Je suis en train de suivre mon frère Chilumbaye en train de l'imiter pour dire lorsqu'il y aura des procès, et il ne faudrait pas que l'Église se mêle, mais si c'est des procès uniques, parlez-nous d'abord des réformes de la justice. Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui si des magistrats peuvent être nommés comme ils peuvent par la volonté du président de la République, par exemple à la Cour constitutionnelle, alors qu'il y a des règles établies qui ont été violées? Qui va croire à cette justice-là? Qui va croire à cette justice-là lorsqu'elle va interpréter des textes qui sont aussi clairs de la Constitution, mais ne va que dans un sens pour donner raison à un processus tortueux qui a mis en place ce que lui, professeur Chilumba, est en train de faire? Qui peut être content de ça? Les évêques ont visité, par exemple, l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont donc palpé du doigt ce qui est en train de se passer à l'Est. Mais donc, ces évêques-là assistent en même temps à cette récréation à Kinshasa, où on a dit, bon, nous avons fait tomber Mabunda, et donc pour nous, on a gagné. Nous avons fait partir Ilunga, on a gagné. Nous avons fait partir Tangwe, on a gagné. Et qu'on disait que c'est dans 48 heures qu'ils allaient mettre en place des nouveaux animateurs des institutions. Et que jusque-là, on n'était que tournoyés. Les mêmes gens qui étaient en consultation avec le président, ce sont les mêmes gens qu'on voit se faire photographier avec celui qui était informateur, ce sont les mêmes gens qu'on voit se faire photographier avec le Premier ministre. Mais est-ce que la population devra attendre tous ces temps-là? Ou les politiciens croient qu'ils ont tous les temps pour faire ce qu'ils veulent, rien que pour positionner des gens? Je crois que lorsque ce message-là, il est salué, c'était renvoyer toute la classe politique, en tout cas, dos à dos. Ce n'était ni en faveur du FCC, ni en faveur du CAS, mais simplement en faveur de la population qui, en réalité, c'est notre juge suprême qui doit juger de nos actions politiques, de notre comportement politique.
Maître Ferdinand Cambéré, les évêques ont fait plusieurs recommandations au peuple congolais, au président de la République, au gouvernement, au Parlement. Je prends une des recommandations faites au Parlement. On demande au Parlement de consacrer en priorité à la session de mars les lois sur les réformes électorales et sur l'organisation de la CENI afin de garantir la tenue des élections dans le respect du délai constitutionnel 2023 et d'éviter tout prétexte pour un glissement quelconque.
Oui, parce que ça n'a pas été, lorsqu'en 2016, on a dit repousser, on a dit repousser à 2 ans l'élection pour qu'on organise les élections à 2018. Si aujourd'hui, ce gouvernement qu'on est en train de vouloir mettre en place, qu'on veut appeler le gouvernement d'union sacrée, Alors que nous, nous savons que toutes les théories de la science politique et du droit constitutionnel et du fonctionnement des institutions, ce serait un gouvernement fragile. Regarde, jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé de tout ce défilé devant le président de la République, sous les consultations, devant le Premier ministre. Mais on n'a jamais su mettre un accord qui va le souder ensemble pour ne plus que mettre ensemble un programme où on va voir que dans ce programme de ce gouvernement, la priorité, ça sera l'élection, les réformes électorales et tout ça, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dedans, et jusque-là, il n'y a pas encore un principe, un consensus plutôt, sur là où on doit toucher par rapport à tel autre point. Vous le savez bien, et qu'il faudra donc un accord politique, un consensus politique entre les acteurs politiques, mais aussi la société civile, par rapport à ce qui sera normalement réformé pour que ce processus électoral soit heureux. Nous le disons encore, il ne faut pas tout le temps que les gens croient que c'est simplement le processus électoral qui existe. Il y a aussi le processus démocratique qui souffre. Les évêques l'ont rappelé, la décentralisation continue à souffrir. On doit réfléchir sur ça.
Merci, Maître Kambere. Les auditeurs sont très, très nombreux à appeler. Abedolassi Acholé, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
J'ai passé à Kenga depuis la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. La CENCO est une force non moins moindre dans la vie politique congolaise. Vu son implication d'il y a plusieurs décennies, ça, on doit le reconnaître. Mais au-delà de cette lutte, une remise en cause s'avère importante et urgente. Quel bilan dresse-t-elle dans cette lutte? Il ne faudra pas que derrière cette lutte se cache autre chose que les évêques cherchent à tout prix et qui les révoltent lorsqu'elles ne sont pas trouvées et la population devienne un bouc émissaire. Quant aux critères des nouveaux animateurs, même si on refait le monde pour la seconde fois, les anges ne naîtront jamais au Congo pour trouver solution à nos problèmes. Et quels que soient les critères qu'on pourrait établir, la volonté et les soucis de la population de la part de ces nouveaux animateurs sont les maîtres mots qui doivent incarner ces derniers pour changer la donne.
Abedolassi Acholé, les vraies réactions.
Oui, merci. À notre ami de Lubumbashi, je crois que le professeur Chilombay, que je salue en passant, a bien compris que l'Église est dans son rôle, dans sa mission. Et je le confirme ici. Donc l'Église n'a rien derrière la tête. Le souci de l'Église, c'est le bien-être de la population. L'Église catholique, les évêques se sont engagés à accompagner les institutions du pays dont le président de la République et ils le feront toujours en tant que prophète. Donc là, qu'ils soient rassurés. On n'attend pas les anges, hein, ça c'est vrai, mais il y a quand même des critères qui peuvent orienter. Et là, je réponds en même temps aussi au professeur Chilombay, ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai, le gouvernement doit être l'émanation du Parlement, mais ça ne s'oppose pas avec ce que les évêques demandent. Donc tout ça peut être tenu ensemble parce que je ne crois pas que dans les différents partis, il n'y a que des médiocres. Non, donc c'est question de chercher quand même des gens qui peuvent aussi nous surprendre, hein, comme dit notre ami là, ce ne sont pas de, des anges. Alors, pour finir, je dirais au professeur Chilombay que, en tout cas, pour la justice, jusque-là, à ma connaissance, les évêques n'ont pas fait obstruction, n'ont pas pris une position contre une disposition de la justice par rapport au 100 jours. Est-ce qu'il fait allusion à la visite que moi, personnellement, j'ai fait à M. Vital Kamerhe? Il n'y a pas que des saints qui sont en prison. Et comme prêtre, comme pasteur, nous avons aussi l'Évangile nous le demande. Est-ce qu'il fait allusion aux félicitations qu'on a faites à M. Matata Poyo? Je crois qu'on prend quelque chose entre les lignes. Les évêques ont constaté, ils ont félicité, mais ils n'ont pas d'informations pour dire que c'est l'argent détourné ou pas, comme certains l'ont prétendu. Donc, ils soient rassurés, jamais les évêques membres de la CENCO ne porteront obstruction, ne feront obstruction à la justice.
Merci, Abbé Cholé, professeur Chilombay. Une réaction aussi pour vous qui nous vient de Chabunda, au sud Kivu.
Maître David Imachandi, depuis Chabunda, au sud du Kivu. Les messages en soi reflètent la pensée de tout Congolais. Il est vrai qu'il y a l'avancée dans certaines choses du pays, mais en réalité, les questions sensibles qui préoccupent les peuples n'ont jusque-là connu aucun changement. Entre autres, sécuritaire, les détournements des fonds de l'enseignement corruption et les tueries de gens en cascade. Aucun signe tenda pour obtenir une réforme de la CENI. Il est important de reconnaître le travail abattu par la CENCO pour parvenir à l'alternance démocratique.
Professeur Chilumbayi.
Oui, je salue l'honorable Kambere puis ceux qui participent à cette émission. Lorsque l'honorable Kambere parle de s'occuper de la population, on ne s'occupe pas de la population. Mais moi, j'ai voulu entendre que les évêques ont plutôt reconnu que les parents ont été sérieusement déchargés par la mesure des gratuités de l'enseignement qui, à ce jour, peut être évaluée, si on est objectif, à 90% des réalisations. Les enfants, par millions, ont retrouvé le chemin de l'école, ce qui n'a pas été le cas pendant les 20 dernières années. Ce que les évêques ont demandé à ce niveau, c'est que l'on trouve de moyens supplémentaires au niveau local pour consolider cette mesure et la renforcer pour que les parents et les enfants bénéficient de cette mesure qui est sociale par ailleurs, mais aussi que les enseignants soient libérés des humiliations qu'ils ont subies bientôt 30 ans du fait de cette prise en charge par les parents qui les a énormément chosifiés, avilis et qui a ridiculisé leur sacré métier. C'est du social, ça. Lorsque l'on parle des réformes de la justice, mais à peine, nous, on s'est séparés avec le FCC qui était majoritaire au Parlement. Nous n'avons pas vu les réformes crédibles que le FCC avait proposées, à part la tentative de confisquer le parquet, de mettre la main basse sur le parquet, comme il pensait avoir le ministère de justice éternellement. Mais sur ces réformes, moi je ne crois pas qu'il faille un accord politique pour encore réformer. Notre peuple a élu les députés pour les réformes qui sont de la compétence du Parlement et le bon devoir se faire au Parlement. Le seul Parlement, le peuple a élu ses représentants, c'est eux qui vont réformer. Nous avons bien sûr des recommandations à formuler, mais il n'y a pas question d'accord politique pour aller réformer les institutions alors qu'il y a de structures bien évidemment établies pour se faire. La question de la décentralisation, l'honorable Kambere en sait quelque chose mieux que moi. Nous sommes en cours de mandat. Il sait que après 3 cycles électoraux, lui a été membre de l'ancienne coalition au pouvoir, de l'ancien régime. Ils n'ont jamais envisagé organiser les élections locales parce que c'est un virage qu'il faut pour que cette décentralisation s'affermisse. On ne demande pas la décentralisation aujourd'hui, pendant que nous ne sommes même pas en passe d'organiser ces élections et que nous sommes en train de parler de réforme électorale. Il faut réformer. Nous, le président Tshisekedi en particulier, il a promis de tenir ces élections locales. C'est la clé de voûte pour que cette décentralisation soit parachevée. Nous tous, nous sommes d'accord avec le fait que les évêques, pas seulement eux, toute la société civile vigile, toute la société civile suive, que toute notre population ait des exigences à l'endroit de nous qui gouvernons. Ça, c'est une évidence. Mais ce que nous ne partageons pas, c'est lorsque ces messages de conscientisation sont opportunément prier et que l'on tente de fermer des yeux sur ce qui est fait et sur des difficultés évidentes que l'on rencontre sur le parcours de cette gouvernance.
Merci,
maintenant,
professeur.
C'est la première fois parce qu'ils reconnaissent que le président Tshisekedi s'est débarrassé des blocages. Il faut que nous lui accordons le temps d'expérimenter son projet de société, le projet de société qu'il a porté au pouvoir, qui est de revenir sur des questions qui ont été tranchées et
merci,
des questions que soi-même on n'a pas réussi à concrétiser.
Merci professeur, merci Kambere. On va prendre aussi pour vous très rapidement cette réaction qui nous vient du sud d'Ubangi.
Monsieur Cédric Lindende depuis la ville de Guémenachef, vient de la province d'ici d'Ubangi. À mon sens, les évêques ont raison de rappeler au régime actuel sur certaines questions qui généralement créent des désordres dans les pays, notamment les sociales et la population, et celles liées à l'organisation des élections dans les délais prévus par la Constitution. Puisqu'en 2016, il y a eu mort d'hommes à cause de la non-tenue des élections. C'est ainsi que les pères de l'Église ont voulu juste prévenir les autorités afin d'éviter les drames des années passées. Aller à la contre de la position des évêques, c'est ignorer l'apport de l'Église qui a tenu les élections de 2018.
Brève réaction.
Oui, la brève réaction est qu'effectivement, je crois que l'auditeur a compris le message de l'évêque, c'est qu'on évite que demain il y ait des prétextes. Le professeur Chilumbayi a très bien dit que le président a promis qu'il va organiser les élections locales, il a promis, mais combien de promesses finalement n'a-t-on pas entendu depuis qu'il est là? Il dit que c'est finalement, maintenant qu'il n'y a plus de blocage, qu'il va finalement dérouler son projet de société. Mais que depuis 6 mois, il ne s'est pas déroulé. Depuis qu'on parle de l'union sacrée, il ne s'est pas déroulé pour qu'on sache le programme finalement qu'il veut mettre en application, en œuvre, c'est quel programme. Jusque-là, il est où, même le Premier ministre, il est là. Nous, on est heureux d'attendre finalement qu'il proclame ces anges-là, finalement, qui seront dans ce gouvernement-là, et qu'on nous dise sur quel programme il a été investi. C'est tout ce qu'on attend. Mais, monsieur le professeur Tshilumbaï, il ne faut pas que tu vas interdire aux Congolais de juger eux-mêmes les actions du gouvernement par rapport à leur vie au quotidien et par rapport à la justice, la sécurité et tout ça. La comparaison qu'on croit toujours pouvoir faire avec les régimes passés comme justification par rapport à ce qu'on doit faire, non, on a jugé déjà les 100 jours, on sait ce qui a été fait après les 100 jours et après Ilunga, on sait ce qui a été fait. Et la volonté, on sait l'avoir dès le premier jour. On n'attend pas 2 ans pour connaître la volonté de celui qui est en train de juger, de diriger. Donc je crois qu'il ne faut pas tromper les gens, qu'il faut toujours réfléchir le processus électoral en dehors du processus démocratique. Si on veut alléger les processus électoraux, que finalement, que ça nous coûte moins et que ça ait une démarche plus simplifiée, pourquoi moins la réhabilitation de l'autorité de l'État arrive jusque dans nos villages. Ne commencez pas à raconter les histoires que le régime passé a fait autant d'années sans rien faire. Ce n'est pas une justification pour ne rien faire lorsqu'on a le pouvoir entre ses mains. C'est tout ce que nous disons.
Merci, Maître Kombéré. Nous sommes à la fin de notre magazine Rabé Donatien Cholet. Il faut conclure, vous inviter les fidèles, les hommes de bonne volonté à ne pas sombrer dans le découragement et à ne pas tomber dans le fatalisme face aux défis multiples de notre pays.
Oui, les évêques restent des hommes de foi, des hommes d'espérance, tout en demandant à la population de ne pas tomber dans le fatalisme. Ils ne demandent non plus de ne pas tomber dans l'attentisme. Donc l'avenir meilleur est encore possible. Et je ne voudrais pas finir sans remercier le professeur Tshilumbaï qui a conseillé l'éducation civique. Donc vraiment il a frappé une porte déjà ouverte, on y est. Et plus que cela, notre commission justice et paix a un projet de calendrier réaliste compte tenu de la situation du moment qui, si c'est pris au sérieux, ça peut aider. C'est aussi une façon d'accompagner les institutions. Voilà l'insécurité, les évêques ont promis des plaidoyers conséquents. Vendredi dernier, ils ont été reçus par le président de la République et une délégation pour échanger sur la question sensible de l'insécurité à l'Est. Donc quand les évêques le font, encore une fois, ce n'est pas pour être politicien, mais pour accompagner le chef de l'État à mener le pays de l'avant. Merci.
Merci Abbé Donatien Cholet, professeur Jean-Claude Tshilumbaï, votre conclusion.
Nous invitons les évêques à communiquer aussi à la prochaine sur des bonnes intentions clairement établies par le chef de l'État, à inviter notre population et les politiques à accompagner le projet de lutte contre la corruption, le projet de gratuité dans lequel l'Église, mon Église, est aussi accusée de jouer au blocage. Il faut qu'on arrive ensemble à se mettre d'accord sur les modalités pratiques de finaliser ce projet salutaire pour toute la population, le seul au moins qui touche chaque foyer de notre pays ici. Et parce qu'on y cite les évêques, pas notre population, nous les invitons à s'exprimer clairement la prochaine sur ce projet, à la manière dont ils entendent aussi conduire ce projet dans les écoles sous leur gestion, sous la gestion de l'Église. Du reste, moi je crois que la vigilance de notre population, la vigilance des politiques de la société civile ne doit pas nous faire peur. Nous continuerons de travailler, nous nous mettrons au travail dans des conditions qui ont été plus ou moins balisées, des conditions de cohérence pour que la situation change. Effectivement, notre population n'a pas raison de désespérer.
Merci, professeur Tshilumbaï. Maître Kombéré. Maître Kombéré, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'on a perdu Maître Ferdinand Kambere, merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Dona Madimba, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Polydor Basuga qui était à la mise en onde, présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.